Bonsoir à tous. La justice accélère dans l'affaire Alexandre Benalla, mis en cause dans une vidéo de violence contre des manifestants le 1er mai dernier. Ce chargé de mission auprès de l'Élysée est en garde à vue depuis ce matin. Une procédure de licenciement est également en cours. En attendant, cette affaire paralyse les travaux des députés à l'Assemblée nationale. L'opposition exige que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, vienne s'expliquer au plus vite. Certains parlementaires demandent même sa démission, vous l'entendrez. Comment se déplacer sans polluer? C'est en quelque sorte l'objectif des mesures qu'a dévoilé aujourd'hui le gouvernement. Un plan sur la mobilité pour rendre nos centres-villes plus respirables. Et puis à Gaza, jusqu'où ira l'escalade militaire entre le Hamas et Israël? Bombardement massif aujourd'hui dans l'enclave palestinienne. L'opération militaire est toujours en cours. Elle a été lancée en réponse à des tirs visant des troupes israéliennes selon l'État hébreu. Un soldat israélien a été tué côté palestinien, on dénombre au moins 4 morts. 48 heures après les révélations du journal Le Monde, l'Élysée a donc fini par céder à la pression. La présidence de la République a engagé une procédure de licenciement à l'encontre d'Alexandre Benalla. Ce très proche collaborateur d'Emmanuel Macron est également en garde à vue depuis ce matin dans le cadre de l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris. Tout comme son compère Vincent Crase, employé par La République En Marche, lui aussi apparaît dans les fameuses vidéos tournées le 1er mai dernier. On fait le point sur cette enquête avec vous, Charlotte Piret.
Deux hommes, Alexandre Benalla donc et son ancien associé Vincent Crase, sont toujours en garde à vue ce soir, alors que les publications de vidéos de la scène se multiplient. On y voit ainsi clairement Alexandre Benalla frappé puis écrasé d'un coup de pied le jeune homme à terre. On y voit aussi Vincent Crase porter une arme, alors qu'on sait désormais qu'il ne disposait pas de permis, sauf en cas de mission en tant que gendarme réserviste, ce qui n'était pas le cas ce jour-là. Ces vidéos font d'ailleurs également l'objet de cette enquête, avec ce matin la suspension de 3 policiers, un commissaire, un commandant chargé des relations avec l'Élysée et un contrôleur général. Ils sont soupçonnés d'avoir transmis à Alexandre Benalla les images des caméras de surveillance de la place dans les heures qui ont suivi la révélation de l'affaire mercredi. Se poursuivent également les auditions de témoins. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, supérieur hiérarchique d'Alexandre Benalla, a ainsi été entendu hier soir. Quant aux deux victimes des violences, ils sont toujours en cours d'identification à ce stade et n'ont donc pas encore été auditionnés.
Les précisions de Charlotte Piret pour France Culture. Et si l'Élysée a donc tenté de calmer le jeu en se séparant d'Alexandre Benalla, cela reste apparemment insuffisant pour faire taire les critiques. L'opposition réclame toujours des explications. Et à l'Assemblée nationale, un nom est sur toutes les lèvres, celui du ministre de l'Intérieur. À gauche comme à droite, on se demande dans quelle mesure Gérard Collomb était au courant des agissements d'Alexandre Benalla lors du lieu.
Oui, et cela ne fait guère de doute dans les rangs de l'opposition à l'Assemblée. Beaucoup appellent à la démission du ministre de l'Intérieur, à l'image du chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
Monsieur Collomb est maintenant hors d'état de commander la police, pour la raison que la police sait qu'à la première occasion, le ministre de l'Intérieur se défausse sur la hiérarchie policière de ses responsabilités politiques. Donc ils le savent, et M. Collomb ne peut plus commander, on le sait bien politiquement.
Mais pour l'opposition, Gérard Collomb est loin d'être seul responsable dans ce scandale. Pour Christian Jacob, chef du groupe Les Républicains à l'Assemblée, la question de sa démission n'est qu'une façade.
Ce sera la décision du Premier ministre et du Président de la République qui, à un moment, vont trouver un fusible. Alors, on verra à quel niveau ils trouvent le fusible. Mais ce qui est assez clair aujourd'hui, c'est qu'il semble bien que le ministre de l'Intérieur ait menti devant le Sénat.
Du côté de la majorité, on fait le moins de vagues possible. Aurore Berger, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée.
Parce que Gérard Collomb peut évidemment rester en poste. Il est ministre de l'Intérieur, il a saisi l'IGPN, il est tout à fait dans son rôle. Il sera entendu, je crois, par la commission d'enquête dans un calendrier qui sera communiqué prochainement. Mais de toute façon, il pourra dire exactement ce qui s'est passé. Et je constate aussi que la justice en est saisie et qu'une enquête judiciaire est ouverte.
Voilà en gros le mot d'ordre. On laisse la justice faire son travail. En attendant, Gérard Collomb sera en effet entendu par la commission des lois du Sénat. Ce sera mardi prochain en fin d'après-midi.
Laura Dulieu au Palais Bourbon pour France Culture. Pour la SNCF, c'est une facture particulièrement salée. Selon l'entreprise ferroviaire, la mobilisation des cheminots contre la réforme du rail a coûté 790 millions d'euros à la compagnie. C'est plus que le bénéfice de l'entreprise en 2017. Une mobilisation qui a coûté cher aussi pour les cheminots grévistes, avec au total environ 100 millions d'euros de retenue sur salaire. C'est un pari qui sera certainement difficile à relever. Le gouvernement veut transformer les habitudes des Français dans leur façon de se déplacer, notamment en ville. Entendez par là, encourager les modes de transport les moins polluants possibles. L'exécutif a donc présenté aujourd'hui son plan en faveur d'une mobilité propre. Évidemment, cela passe par le développement du covoiturage ou du vélo en ville, mais pas seulement. Les autorités invitent les grandes villes à devenir zones à faible émission. Concrètement, il s'agit de territoires bien délimités où la circulation circulation des véhicules les plus polluants est restreinte, voire interdite. Ce dispositif a déjà fait ses preuves ailleurs en Europe, mais en France, seuls Paris et Grenoble ont tenté l'expérience. Pour que cela soit efficace, le gouvernement compte mettre en place des systèmes de contrôle automatisés et de vidéo-verbalisation. Un système très coercitif, mais primordial, estime Christophe Najdowski, l'adjoint au maire de Paris en charge des transports.
Des contrôles automatisés, il y en a de différentes sortes. On peut imaginer des systèmes embarqués dans les véhicules ou encore des portiques qui détectent les plaques d'immatriculation. C'est l'expérience d'ailleurs que l'on a des autres pays européens où ces zones ont fait leurs preuves, mais pour peu que l'on ait justement ces contrôles automatisés. Aujourd'hui, une collectivité locale, une ville comme Paris, ne peut pas mettre en place seule ces contrôles automatisés. Et donc c'est la raison pour laquelle nous demandons à l'État d'inscrire dans la loi d'orientation sur les mobilités cette possibilité pour les villes. Et nous sommes demandeurs que dès 2019, dès le vote de la loi, nous puissions expérimenter la mise en place de ces contrôles automatisés à Paris, parce qu'il y a une urgence sanitaire de reconquête de la qualité de l'air. Il nous faut véritablement changer de braquet si l'on veut améliorer durablement la qualité de l'air. Celle-ci s'améliore à Paris d'année en année, mais nous sommes encore sur une vitesse d'amélioration qui est insuffisante. Et donc si nous voulons véritablement accélérer cette reconquête de la qualité de l'air, nous avons besoin de ces outils et donc c'est le message que nous voulions faire passer à l'État.
Christophe Najdowski, adjoint au maire de Paris en charge des transports. Israël mène actuellement sur la bande de Gaza les plus lourds bombardements depuis la guerre de 2014. Une réponse, selon l'État hébreu, à des tirs visant des troupes israéliennes près de la frontière. Aujourd'hui, un soldat israélien a été tué et au moins 4 personnes sont mortes côté palestinien. L'ONU lance ce soir un appel au calme en direction de Gaza. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies dans cette région implore Israël et le Hamas de s'éloigner, je cite, du bord du précipice. À Jérusalem, Marie Semelin pour France Culture.
L'armée israélienne annonce ce soir la mort d'un de ses soldats touché par un tir palestinien près de la frontière avec la bande de Gaza. On redoute ici que ce décès soit l'étincelle pour un nouveau conflit. L'armée israélienne a répondu par de lourds bombardements actuellement en cours sur l'enclave palestinienne. 4 Palestiniens sont morts. À la télévision israélienne, un gradé de l'armée a averti cet après-midi. Jusqu'à aujourd'hui, nous pensions pouvoir arrêter l'escalade, mais nous n'en sommes plus là. Des décisions vont être prises. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est en ce moment en réunion d'urgence au quartier général de l'armée à Tel Aviv avec le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui prévient si le Hamas continue d'envoyer ses roquettes, Israël réagira beaucoup plus durement qu'il ne le pense et il sera responsable de la perte de vies humaines. Depuis une semaine, la tension est vive entre Gaza et Israël. L'État hébreu a décidé désormais d'opter pour une réponse militaire aux cerfs-volants incendiaires qui volent vers son territoire et ont provoqué de nombreux départs de feu du terrorisme pour l'État hébreu. Et ce soir, les résidents autour des localités proches de l'enclave ont pour consigne de rester près des abris. 3 roquettes ont été tirées depuis Gaza. L'armée se prépare pour une riposte militaire.
Les précisions de Marie Semelin. La France et la Russie vont livrer ensemble de l'aide humanitaire à la Syrie. C'est ce qu'annonce ce soir l'Elysée. Il s'agit notamment de venir en aide à la population de la Ghouta orientale, population durement frappée au début de l'année lors d'une longue offensive menée par le régime de Damas. Paris et Moscou vont donc acheminer du matériel médical de première nécessité, ainsi que des médicaments pour soigner environ 15 000 blessés légers et 500 blessés graves. En Allemagne, plusieurs personnes ont été blessées, mais aucun mort n'est à déplorer. Un homme a attaqué au couteau des passagers d'un bus à Lübeck, dans le nord du pays. Le suspect, dont le mobile est encore pour le moment inconnu, a pu être interpellé. Une cyberattaque sans précédent. C'est par ces mots que les autorités de Singapour ont révélé un piratage d'ampleur qui a frappé plus du quart de sa population. Des hackers ont dérobé les dossiers médicaux d'1,5 million d'habitants, et y compris celui du Premier ministre qui était spécifiquement visé par cette attaque selon les enquêteurs. Nom, adresse, date de naissance, numéro d'identification nationale. Ce vol massif de données personnelles est un véritable revers pour Singapour, présenté comme l'un des territoires les plus connectés de la planète. La météo est des Pyrénées à la Savoie en passant par le Massif central. 19 départements toujours en vigilance orange pour les orages ce soir. Une menace qui restera présente demain des Alpes au nord-est du pays. De la pluie également à prévoir dans le sud-ouest. Partout ailleurs, le ciel sera variable. Les températures minimales de 11 à 23 degrés de la Manche à la Méditerranée. Les maximales grimperont jusqu'à 31 degrés.